Dans 60 ans, les gens regarderont nos transports et ils diront « Mais qu'est-ce qui leur a pris ? C'est absurde !»
En 2080, degré ou de force, il y aura moins de pétrole. Ça veut dire une façon de se déplacer qui a été radicalement transformée.
Dans le futur, l'Hyperloop aura remplacé les avions sur les trajets courts.
On peut très bien permettre à ces véhicules-là d'atteindre 2000, 3000, 5000 km/h.
Le vrai défi, c'est de réduire notre besoin de transport mécanique.
En fait, à l'heure qu'il est, personne ne sait vraiment quelle sera la bonne réponse.
Scan en cours. Ne bougez pas. Autorisation en règle.
L'homme doit inventer une nouvelle façon de vivre et de se déplacer. C'est un impératif. Mais que se passerait-il dans 60 ans si nous avions échoué? Projetons-nous. Nous sommes en 2080. L'homme a été contraint d'abandonner la voiture individuelle. Une trentaine de millions d'automobiles sont désormais désossés dans une de ces décharges du bout du monde. On y récupère les métaux rares et les plastiques difficiles à produire depuis le tarissement du pétrole. Nathan est l'un de ces ferrailleurs. Il travaille à 4000 km de chez lui, mais reste en contact avec ses proches grâce à des lentilles connectées.
Chérie, le médecin m'a dit que je devais partir à la...
Sa femme risque d'accoucher en urgence, 2 mois avant le terme. Il doit la rejoindre. Mais ses crédits de voyage ne seront pas renouvelés avant 1 mois. Nathan avait tout prévu sauf ça. Dans ce futur-là, chaque déplacement est rationné, comptabilisé. Nathan va devoir trouver une solution clandestine. Un avion à hydrogène survole la décharge. Dans ce scénario où le réchauffement dépasse les 6 degrés en 2080, ces engins militaires sont encore les seuls autorisés à voler. Et si Nathan embarquait à bord d'un avion militaire? Le chef de Nathan est un ancien de l'armée de l'air, justement. Un mécano sur turbine à hydrogène. Nathan le supplie de l'aider à pénétrer la base aérienne voisine. C'est d'accord. Son collègue va lui obtenir un passe militaire falsifié. Des déplacements au compte-gouttes pour faire face à la pénurie d'énergie, ce n'est pas un scénario catastrophe. C'est ce qui nous pend au nez, si rien ne change.
En 2080, sans doute que, degré ou de force, il y aura moins de pétrole. Degré, si on se décide enfin à mettre en œuvre nos engagements climatiques, qui conduisent à se passer de pétrole, de gaz et de charbon d'ici une génération, vers 2050. Et de force, parce qu'il y a une autre crise écologique dont on parle beaucoup moins, mais que les pétroliers connaissent très bien, c'est que les pétroliers ne trouvent plus de pétrole. Toute la société va devoir fonctionner différemment, en particulier les transports, qui sont aujourd'hui le système vital, l'organe vital de la société qui est le plus dépendant du pétrole et également du gaz naturel. Se projeter d'ici une génération dans une société qui se passe de pétrole, ça veut dire une façon de se déplacer qui a été radicalement transformée.
Le rapport de l'ONU le plus récent nous dit qu'il ne faut pas émettre plus de 2 tonnes de CO2 par personne et par an si on veut maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Oubliez les 1,5 degrés dont tout le monde continue de parler. Ça veut dire qu'aux États-Unis, on doit passer de 18 tonnes à 2 tonnes de CO2 par personne. Les véhicules électriques, ça nous fait seulement passer de 18 à 17 tonnes et demie. Donc c'est clair qu'on va avoir besoin de politiques d'incitation beaucoup plus inventives pour réduire notre empreinte carbone.
2080, on peut imaginer, pourquoi pas, au lieu d'avoir des euros ou des dollars sur ton compte en banque, eh bien, tu as des watts, des joules à consommer. Voilà, tu as un quota d'énergie à consommer dans l'année. Alors, tu as le droit, ou dans ta vie, pourquoi pas. Dans ta vie, tu as le droit d'investir X tonnes de CO2 ou X joules dans un voyage au Japon. Mais tu en auras un. Ou alors, tu peux choisir de faire à la place 25 Paris-Berlin. Je ne sais pas. Et donc, tu aurais sur ton existence une capacité à dépenser de l'énergie qui soit équitable, au sens où chacun aurait à peu près la même capacité de consommer de l'énergie ou de la matière.
Peut-être qu'effectivement, à l'avenir, on aura un quota personnel maximum de CO2 par jour, par mois, par an, je ne sais pas. Mais moi, je ne pense pas qu'on aura forcément à s'inquiéter de la quantité d'énergie que nous consommerons, si elle est renouvelable et qu'elle ne nuit pas à la planète.
Oui.
Pour l'instant, on en est encore à forcer les gens à choisir entre voyager écologique et lentement ou prendre l'avion et aller vite. Moi, je pense qu'on arrivera à inventer un moyen de transport rapide et écologique. Quand on voit combien le monde est interconnecté maintenant, je ne pense pas que ce soit réaliste de demander aux gens de voyager plus lentement.
Des énergies renouvelables, des technologies vertueuses, des moyens de transport inédits. On peut aussi rêver d'un scénario où le monde ne serait pas condamné à rétrécir. Dans ce futur alternatif, Nathan est ingénieur lunaire. Il ne vit pas sur la Lune, mais pilote à distance des engins lunaires.
Bienvenue au Centre international de régulation des activités lunaires.
Depuis quelques années, la Lune est devenue une source importante de roches et de matériaux essentiels aux technologies terrestres. Une exploitation internationale qui a permis la paix et la sauvegarde de l'environnement sur Terre. À 380 000 km de distance, Nathan dirige ses robots à l'aide de ses lentilles connectées.
Bonjour, administrateur. Votre présence est requise au secteur 4, 2, 17 pour résoudre un litige entre deux pays signataires de l'accord sur les activités lunaires.
Et voilà qu'un message le ramène sur Terre. Sa femme est sur le point d'accoucher à l'autre bout du pays. Mais dans ce scénario, rien n'empêchera Nathan d'être auprès d'elle ce soir. Il va pouvoir sauter dans le prochain Hyperloop. Le seul moyen de transport capable de lui permettre de couvrir 4000 km en 2 heures, tout en consommant peu d'énergie.
Avec un hyperloop, vous pourrez voyager aussi vite qu'en avion, à 800 ou 900 km/h avec un tiers de l'énergie que consomme un train. Et ça marche parce qu'on enlève deux résistances majeures. L'hyperloop est un train magnétique en lévitation sur des aimants, donc il n'y a plus aucune résistance de frottement. Et d'autre part, il avance dans un tube totalement sous vide. Si vous prenez une voiture, il faut beaucoup d'énergie pour surmonter la résistance à l'air. Là, en avançant dans le vide et en lévitant sur des aimants, vous pouvez aller extrêmement vite avec très très peu d'énergie.
Si vous prenez deux aimants, que vous mettez leurs deux mêmes pôles face à face, ils vont se repousser. Ils ne pourront pas se toucher. Eh bien, c'est le même principe pour l'hyperloop. On fait en sorte que le train ne touche jamais ses rails. Et comme ça, il n'y a plus aucune friction, et donc aussi aucune résistance à l'air. Il suffit de donner juste une petite impulsion à l'hyperloop pour qu'il avance longtemps, sans vraiment ralentir.
Aujourd'hui, on parle de 1000 km/h, parce que 1000 km/h, c'est associé à une limite physique, parce qu'il reste un petit peu d'air dans le tube, et donc on a potentiellement la création d'une onde de choc que l'on ne veut pas dépasser. Mais à horizon 2080-2100, on peut très bien se projeter sur des infrastructures qui soient complètement étanches. On aura potentiellement plus d'air dans le tube, et donc potentiellement la capacité de dépasser cette barrière du mur du son et permettre à ces véhicules-là d'atteindre 2000, 3000, 5000 km/h et d'être capable de faire, je ne sais pas moi, Toronto, Vancouver en une heure ou New York, San Francisco en une heure et de réduire encore plus les distances que l'on a aujourd'hui.
Hyperloop, Nathan file à 2000 km/h. C'est le moment idéal pour lâcher prise et s'offrir une séance de yoga dans cette capsule sous vide qui va presque deux fois plus vite que la vitesse du son. Il ne ressent ni accélération, ni virage, ni décélération. Alimenté par une électricité renouvelable, le tube et ses capsules électromagnétiques sont, dans ce futur idéal, l'un des moyens de transport les plus empruntés au monde. Nathan s'est offert une cabine individuelle. Elles sont entièrement personnalisables. Son voisin, par exemple, a choisi une ambiance plus électrique. On peut aussi voyager à 3, à 6, en famille. À bord de l'Hyperloop, tout est configurable à volonté. À ses débuts, l'Hyperloop faisait figure de cauchemar. L'idée d'être enfermé dans un tube sans contact avec l'extérieur en rebutait plus d'un. Mais les compagnies ont su trouver la parade pour convaincre les plus claustrophobes.
C'est sûr qu'on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'on va ressentir enfermé dans une capsule qui fonce à toute allure dans un tube ? Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est mettre des tas d'écrans dans la capsule qui simulent le monde extérieur. Vous auriez des images de paysages qui défilent, de ciel, pour que les gens ne se sentent pas enfermés ou claustrophobes. Il y aurait aussi toute une série d'indications sur la météo à l'extérieur. On ne réaliserait pas vraiment qu'on fonce dans un tube, en fait. Et puis ces capsules seront totalement autonomes, sans conducteur, dirigées par intelligence artificielle.
C'est pour ça que le système sera vraiment sûr. Parce qu'il ne sera pas conduit par des humains, qui ont un temps de réaction trop long. Ce sera piloté par des machines qui agissent à la vitesse de la lumière. Il n'y a plus de facteur humain, donc pas de source d'erreur. C'est bien plus sécurisant.
Le but, c'est d'offrir un mode de transport qui soit plus efficace que ce qu'on en a aujourd'hui. Quelque chose qui soit alimenté par du renouvelable et quelque chose qui soit plus facile d'utilisation. Donc, enlever tout le stress que l'on a aujourd'hui quand on voyage, on est bloqué dans les bouchons, on va louper notre avion, tout ce stress, même pour ceux qui ont l'habitude de voyager, c'est toujours quelque chose qu'on veut mettre de côté. Et donc, c'est de fournir un système à haute fréquence, c'est-à-dire une fréquence similaire à celle d'un métro, mais avec la vitesse de l'avion. Idéalement, à horizon, on va dire, 2080 et plus, on peut, si on se met à rêver, se projeter en fait la carte du métro parisien, mais à l'échelle d'un continent.
Dans le futur, j'espère que l'Hyperloop aura remplacé la plupart des vols court-courriers. C'est au moment du décollage et de l'atterrissage que les avions émettent le plus de gaz à effet de serre. Donc, sur un vol court, vous émettez bien plus de CO2 au kilomètre que sur un vol transatlantique, par exemple. Du coup, pour le climat, ce serait vraiment important d'arriver à remplacer ces vols court-courriers par quelque chose de plus durable, mais tout aussi rapide.
L'hyperloop de Nathan arrive en ville. Une vaste mégalopole de 25 millions d'habitants. Le futur père a parcouru 3300 km en 2 heures. Il n'aura jamais connu les longues attentes dans les aéroports du début du siècle. Ses lentilles lui annoncent l'arrivée dans l'échangeur central de la ville. Son voyage va se poursuivre dans les airs. Dans cette ville, tous les modes de déplacement sont interconnectés et gérés par une intelligence artificielle centrale. Nathan, jusqu'ici relié au train, va être pris en charge par un module volant. Nathan n'a pas besoin de quitter son fauteuil. L'opération est entièrement automatisée et presque indétectable. Aucun trajet n'est impossible. Si l'Hyperloop a remplacé l'avion, c'est désormais le drone qui fait office de taxi.
La façon de circuler en ville sera très différente d'aujourd'hui, c'est sûr. Quand on parle de mobilité urbaine aérienne, on parle vraiment d'une nouvelle façon de voler, avec des drones qui peuvent atterrir et décoller verticalement dans la ville. Ce sont des engins volants que l'on pourra utiliser dans des zones inaccessibles auparavant.
Ces engins, visuellement, sont très particuliers. Ils n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Avec la propulsion électrique, vous pouvez complètement réinventer le design d'un engin volant. Nous pensons que le plus efficace, ça va être d'avoir une sorte de très grand drone multi-hélice avec des rotors pour décoller verticalement. Un peu comme les petits drones que vous connaissez aujourd'hui, mais à la taille d'un aéronef. Et puis au-dessus de ces hélices, on va aussi ajouter une grande aile fixe pour que le drone vole plus efficacement à l'horizontale. C'est ça qui va nous permettre d'optimiser l'énergie utilisée pour décoller verticalement et celle pour avancer horizontalement. Et du coup, une simple batterie suffira à produire cette énergie.
Quand on aura mis en place ce réseau de drones en ville et que l'engin sera bien au point, c'est vraiment quelque chose qu'on espère pouvoir utiliser dans notre vie quotidienne, sur nos trajets de tous les jours. On ira d'un point à un autre sans impact carbone et sans bruit, à la place des anciens modes de transport.
L'idée avec la mobilité aérienne urbaine, c'est vraiment de donner un nouveau moyen de transport accessible à tous. Que les gens puissent prendre ces drones pour l'aéroport, par exemple, presque comme on prend un taxi aujourd'hui. Je pense vraiment que moins ça sera cher et plus ce sera pratique, et plus il y aura un marché pour ça dès le début.
Les gens ont peur de se retrouver avec un ciel surchargé d'engins volants. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Comme toujours en aéronautique, on n'autorise pas les véhicules à voler n'importe où. Ils auront des trajets prédéfinis.
Ces couloirs aériens suivront le trajet d'autres couloirs au sol. L'itinéraire d'un train, d'une route, d'une rivière ou autre. Il ne faut pas s'imaginer des drones qui slaloment partout entre les gratte-ciel et dans des passages étroits, non.
On pourrait très bien imaginer, vous savez, quelque chose comme le périphérique qu'on a à Paris aujourd'hui, mais dans les airs. Un périphérique de drones qui permettrait d'offrir ce service, mais sans envahir les centres-villes. La question, c'est qui seront les premiers à adopter ces systèmes de taxis volants. D'une certaine manière, les pays en développement auront un avantage. car ils n'auront pas à défaire des technologies existantes pour en adopter d'autres.
Les villes sont encore évoluées, où le système de transport est encore dans le design et la maturité.
Dans ces pays où les villes sont encore en pleine évolution, introduire ces nouveaux transports aériens devrait aussi pousser les urbanistes à penser la ville autrement, à ne pas forcément construire des routes partout. Peut-être qu'on pourrait imaginer des villes vraiment différentes, différemment connectées, en forme d'anneaux par exemple, ou autre chose. En tout cas, pas des villes classiques comme on les connaît aujourd'hui.
Idéal, notre Nathan est déjà en ville. Dans notre scénario le plus sombre, son alter ego cherche encore à quitter la case départ. Dans ce futur-là, jusqu'au bout, l'humanité a cru qu'elle pouvait continuer à polluer comme si de rien n'était. Embarqué dans l'un des seuls avions encore en circulation. Voilà des heures qu'il marche sur cette route, vers la base militaire, bardé d'un équipement pour lui permettre de résister à la chaleur et à la fumée dégagée par les méga-feux voisins. Il couvre une autre décharge, celle-ci dédiée aux bateaux de croisière. Le tourisme de masse a pris fin au milieu du 21e siècle.